nous sommes dans la semaine de Pâques, eh bien, je vais commencer, moi, le premier, cette semaine, en ouvrant avec vous la parole du Seigneur dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20 et au verset 28, pour un verset que nous connaissons bien. Comme ce message est un peu technique, vous allez le voir, il va être appuyé par des diapositives qui vous permettront de mieux le suivre et peut-être de prendre des notes aussi afin que vous puissiez garder mieux en mémoire ce que nous allons partager maintenant ensemble. Donc Matthieu chapitre 20 verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir les hommes et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Ce matin, je veux prêcher sur la rançon. Cette rançon que Jésus-Christ a payée afin de faire de nous des hommes et des femmes libres. Alléluia. Il y a des expressions dans les évangiles, à cause des évolutions sociales, qui ont été quelque peu vidées de leur force. Soyez certains que lorsque Jésus dit à la foule qui le suivait qu'elle devait se charger de sa croix quotidiennement, les gens qui ont entendu cela ont eu le sang glacé. Parce qu'à l'époque, se charger de sa croix avait une signification tout à fait concrète, car il était très fréquent, le long des chemins, à l'entrée des villes, de voir de pauvres hommes en train de mourir lentement, cloués à une croix. Aujourd'hui, se charger de sa croix a bien été diminué de cette force et veut simplement dire, la plupart du temps, supporter une charge un peu pénible. C'est un peu pareil avec l'expression « la rançon ». Bien sûr, nous savons ce qu'est une rançon. Payer une certaine somme d'argent, généralement élevée, afin d'obtenir la libération d'une personne captive. Et j'espère bien qu'aucun d'entre vous nous n'aurons jamais à payer une telle rançon. Laissez-moi aussi vous rappeler que pour aller récupérer votre voiture qui est à la fourrière, vous ne payez pas une rançon, mais une amende. Et ce n'est quand même pas la même chose. À l'époque de Jésus, il n'en était donc pas du tout ainsi. Le concept de rançon, comme celui de se charger de sa croix, faisait partie du quotidien. Et il renvoyait à un endroit bien connu, un endroit spécial, appelé en grec l'agora, en latin le forum, et de nos jours le marché. Et plus particulièrement à un endroit spécial du marché, le stand des esclaves. On estimait leur nombre à environ 5 millions d'individus, soit 8 à 10% de la population de tout l'Empire romain de l'époque. On les rencontrait partout, dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes, dans les champs, dans les mines et puis dans les navires. Et leur commerce était très répandu. Les esclaves n'étaient pas bon marché. Et pour être sûr d'acquérir le serviteur de son choix, l'acheteur devait verser un prix élevé au marchand. Et ce prix s'appelait la rançon. Et c'est dans ce contexte que Jésus prononça cette parole au sujet d'une rançon. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir les hommes et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. À travers cette idée de rançon, je veux parler au début de cette semaine pascale d'une doctrine fondamentale des Écritures qui concerne notre condition présente et à venir, c'est la doctrine de la rédemption, qui affirme que Jésus a versé la rançon nécessaire à la délivrance des captifs que nous étions ou que malheureusement vous êtes encore aujourd'hui. Car c'est ainsi que se trouve l'humanité tout entière aux yeux de Dieu, captive du péché qui la dévore, de Satan qui l'exploite, des passions qui la dominent et de la mort qui la rattrapera. Et pour expliquer cette doctrine de la rançon, je vais m'arrêter sur quatre mots grecs, qui en français, dans nos Bibles, sont traduits d'une manière interchangeable par rachat ou par rançon, mais chacun de ces quatre exprime une nuance particulière et complémentaire. Le premier mot, c'est agorazo, c'est un verbe. Et nous trouvons là la racine agora, le marché. Agorazo signifiait d'une manière très large faire des affaires, acheter ou vendre sur le marché. Et il signifiait déjà, pour nous messieurs, hommes désœuvrés suivant leur épouse sur le marché, y flâner ou y hanter la place. Cependant, il évoquait d'une manière certaine l'achat et la vente des esclaves. Car dans toutes les agoras de l'Antiquité, il y avait malheureusement le stand du marchand d'esclaves. Et là, un être humain, un homme, une femme, un vieillard, un enfant, un prisonnier de guerre, se retrouvait pour être acheté ou vendu. Afin d'exposition et d'inspection, il se tenait sur l'étal, debout, dépouillé de tout vêtement, humilié, sans intimité, livré au regard inquisiteur et aux gestes brutaux des acheteurs qui testaient ainsi leur caractère et leur physique. Pour mieux comprendre cela, je ne peux que vous renvoyer à ce magnifique film primé aux Oscars il y a 2 ou 3 ans, 12 Years a Slave, qui nous rappelle que cela n'est pas si ancien que cela, mais au siècle dernier, ces choses continuaient de se pratiquer malheureusement. Souvent, la valeur de l'esclave était déterminée par la qualité de sa dentition, qui était un reflet de sa santé générale. Agorazo renvoie l'image explicite de la condition de l'humanité aux yeux de Dieu. Par refus d'honorer Dieu, de craindre Dieu, cette humanité est devenue tout entière captive d'un maître esclavagiste et cruel, Satan. Et Paul écrit dans Romains 6, 17 que tous les hommes sont esclaves du péché. Et ainsi donc, hommes, femmes, vieillards, enfants sont comme exposés sur l'étal pour être vendus au plus offrant. Et l'un sera vendu à la maladie qui paye l'agorazo pour s'emparer de cette vie. Et l'autre sera vendu à une passion destructrice qui viendra le brûler à petit feu. Et l'autre sera vendu dès son enfance à la pauvreté humiliante et abjecte. Et un autre sera réclamé par un démon ou une malédiction. Quand ce n'est pas un ensemble de ces acheteurs cruels qui viennent réclamer une seule personne pour l'abattre encore plus. Alors les pauvres hommes de notre humanité se regardent les uns les autres, conscients plus ou moins de leur situation et essayant bien de trouver des solutions pour améliorer leur sort. Mais la Bible nous dit qu'ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Autrement dit, ils ne peuvent se dégager par eux-mêmes des liens qui les rattachent à Satan. Et il est écrit qu'ils ne peuvent donner à Dieu le prix de leur rachat, car le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Psaume 49, verset 8. Alors, nous voyons des hommes tout autour de nous baisser la tête et accepter leurs conditions en essayant de se rassurer en se disant que finalement il n'y a pas qu'eux, mais il y a aussi le voisin. Mais c'est peut-être aussi ta situation, mon ami, ce matin. Peut-être que tu es là au milieu de nous, mais tu es toujours aussi sur l'agora. Je ne sais pas quel maître est venu réclamer ta vie. Je ne sais pas quel acheteur a payé l'agorazo pour venir s'emparer de toi et de ta famille. Je ne sais pas quelle passion, quelle puissance occulte, quelle destruction, quel ravage est en train de brûler ta vie jour après jour. Mais voilà que dans cette agora infâme, un homme s'est avancé et il a payé une rançon unique. Une rançon pas simplement pour quelques-uns choisis sur le volet à cause de telle ou telle capacité. Mais il est venu pour toute l'humanité. Il est venu pour tous les hommes, pour toutes les femmes, les trouvant gisants dans le péché. La déchéance, la maladie, l'humiliation. Et il est venu pour payer une rançon, non point avec de l'or ou de l'argent, mais avec une valeur supérieure à tout autre. Cet homme, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et la rançon qu'il a acquittée, c'est sa vie, qu'il a donnée pour nous à la croix, en versant son sang. L'apôtre Paul écrit dans Corinthiens 6, 20, « Car vous avez été rachetés à gorazo à un grand prix, le prix du sang de Jésus-Christ. » Par amour pour l'humanité, pour cette humanité captive, esclave, cette humanité qu'il a créée pourtant pour la liberté, Dieu a envoyé son Fils Jésus, non pour être servi par les hommes, mais pour les servir. Non pas simplement en voulant apaiser un peu leur souffrance, mais en allant jusqu'à verser la rançon, agorazo, pour les racheter. Pour toi, pour nous, Jésus a versé son sang en rançon devant Dieu, afin que le péché ne soit plus notre maître, afin que la malédiction ne soit plus notre oppresseur, la pauvreté humiliante, notre héritage, et la mort, la dernière à nous réclamer. Toi aussi, Jésus t'a racheté à un grand prix. Nous étions esclaves, et Jésus est venu payer l'agorazo. Mais ça ne s'arrête pas là. Et nous allons aller encore plus loin avec le verbe suivant, exagorazo. Nous retrouvons agorazo dont nous venons de parler et nous voyons qu'il est complété d'un préfixe ek qui veut dire hors de. Dans le contexte du marché aux esclaves, il signifie retirer de l'agora celui qui vient d'être racheté. Exagorazo signifie donc soustraire, enlever. Comprenons ceci. Quand un acheteur faisait l'acquisition d'un esclave, il était libre ensuite, pour toutes sortes de raisons, insatisfaction, lassitude, colère ou autre encore, il était libre de le revendre. Et donc de le ramener sur l'agora, là où l'esclave serait une nouvelle fois exposé, humilié pour être vendu au plus offrant. Le paiement de l'agorazo, la rançon d'achat, ne modifiait rien donc le statut de l'esclave. Il devenait simplement l'esclave d'un autre et pouvait s'attendre à être revendu. Cependant, l'agorazo que Jésus a versé est très différent. Il a payé le prix le plus élevé pour acheter l'humanité, mais aussi pour la sortir, exagorazo, de la place du marché définitivement. Et même si nous sommes infidèles, lui, Jésus, ne se lassera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous rejettera pas et il ne nous renverra pas à l'agora. Car en effet, merveilleuse et bonne nouvelle, l'apôtre Paul écrit, Galates 3,13, que Christ nous a rachetés exagorazo. Dès lors, nous ne sommes plus à vendre. ou à revendre. Plus jamais nous ne retournerons sur l'agora. Il nous en a sortis pour toujours. Cependant, est-ce une réalité spirituelle pour vous? L'exagorazo de Christ a-t-il été proclamé sur votre vie? Avez-vous quitté l'agora définitivement? Car il ne s'agit pas simplement de dire « Christ m'a racheté agorazo ». Il s'agit maintenant de rentrer dans cette nouvelle dimension « Christ m'a sorti de l'agora » afin que je n'y retourne plus jamais, afin que l'ennemi ne puisse plus m'atteindre. Et je vais vous dire ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui en sont restés à l'agorazo, mais qui ne sont pas rentrés dans l'exagorazo. Ils ont été rachetés, mais on les voit flâner là sur la place du marché, risquant d'être de nouveau rattrapés par le péché. Alors que Christ a dit, j'ai payé la rançon exagorazo, je te fais sortir du marché, et je te promets que plus jamais tu ne seras à vendre. Rentre dans cette nouvelle dimension. Dans cette dimension qui t'éloigne du péché, dans cette dimension qui t'éloigne de Satan, dans cette dimension qui t'éloigne de la malédiction. L'exagorazo, c'est la voie de la vraie liberté. Christ ne nous a pas simplement racheté agorazo, il nous a racheté exagorazo. Il t'a fait sortir du péché, de la malédiction, et il n'y a aucune raison pour que toi, mon frère, ma sœur, tu restes encore sur l'agora. Tu n'es plus à vendre. Troisième mot, lutro. 1 Pierre 1,18. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés. Pierre utilise ici le verbe lutro qui signifie relâcher à un certain prix. Libéré par le paiement d'une rançon, libéré de la misère et de la condamnation. Ce verbe va donc plus loin que agorazo. Agorazo, c'est rançon de rachat. Lutro nous parle d'émancipation et de liberté. Imaginez donc la réaction d'un esclave entendant que l'acheteur intéressé par lui ne veut pas simplement payer un agorazo, mais est prêt à payer un lutron. Ça veut dire que celui qui vient ne veut pas simplement le racheter pour lui, il veut le racheter pour le mettre en liberté. Quelle différence, n'est-ce pas? Lutro vient d'une racine luo, L-U-O-O, luo, qui signifie, vous allez voir, c'est merveilleux, desserrer, dénouer, relâcher les liens qui nous rattachent, luo. Dans notre propre nature, Dieu nous voit comme esclaves du péché et de ce maître tyrannique et injuste et cruel, Satan. Mais dans son amour, il veut briser les liens, il veut desserrer les liens qui nous attachent à lui. Et pour cela, Jésus a versé par son sang le lutron de notre liberté. Une rançon qui nous délie, une rançon qui défait les liens, qui brise les liens qui nous rattachaient à Satan et au péché. Et cette rançon garantit devant Dieu notre délivrance et notre libération des pouvoirs démoniaques qui nous maintenaient captifs. Et alors je peux avancer dans la vie en présentant spirituellement parlant au péché, à la malédiction, à Satan, mon certificat. Un certificat d'émancipation, un certificat qui a été frappé, scellé par le Saint-Esprit dans le sang de l'agneau. Et je peux dire au péché, voilà, tous liens ont été détruits. Anéanti, tu ne peux plus rien contre moi. Ce mot lutron signifie donc rançon de liberté. Et c'est celui-là que Jésus a utilisé dans notre verset, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le lutron, la rançon de liberté de plusieurs. Galates 5 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ n'est donc pas un nouveau maître tyrannique, un nouvel esclave. Nous ne passons pas d'un esclavagiste, nous ne passons pas d'un maître esclave à un nouveau maître esclave. Car non seulement Jésus nous a retiré exagorazo de l'agora, mais en plus, il a versé devant son Père la rançon d'émancipation et de liberté. Comme le dit le très beau chant que nous commençons à apprendre et à chanter, « Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave des passions et de Satan et de la malédiction. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je suis un homme libre. Et je suis enfant de Dieu. » Et c'est ce dont nous parle justement le dernier mot que je veux voir avec vous ce matin, apolutrosis. Vous retrouvez là le verbe lutro, qui est une nouvelle fois complété par un préfixe apo. Apo a plusieurs significations, mais ici, celle qu'il revêt, c'est retour à l'origine. Retour à l'origine. Paul l'utilise dans ce verset bien connu de Romains 3, 24, et il dit que les hommes, tout homme, toute femme, quelle que soit sa condition, son origine ethnique, sociale, religieuse, qu'il soit juif ou païen, riche ou pauvre, homme ou femme, vieillard ou enfant, ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption apolutrosis qui est en Jésus-Christ. À travers ce quatrième mot, nous découvrons le but suprême du projet rédempteur de Dieu. Jésus a payé le lutron, la rançon de liberté, afin de ramener l'homme à son statut original, à sa position originelle, telle que Dieu l'avait conçu avant que l'homme ne se rebelle contre lui. L'apolutrosis nous dit que la rançon payée par Jésus n'est pas simplement un rachat, n'est pas simplement une rançon de liberté, c'est aussi une rançon de réconciliation avec Dieu. Colossiens 1, 20, c'est par le sang de la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu. Ce sang, c'est le lutron. C'est ce que Jésus a payé afin que nous soyons en paix avec Dieu. Ce sang de la réconciliation, cette rançon, cet apolutrosis, veut dire que nos péchés, nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, tout ce que nous étions, est pardonné. Pardonné. Notre incrédulité, notre rébellion, pardonné. Nous sommes en paix avec Dieu. Et l'apolutrosis nous parle aussi d'une rançon de réhabilitation et de restauration par laquelle nous retrouvons notre statut original d'homme libre du péché. Et nous redevenons ainsi des fils et des filles du royaume de Dieu. Je sais que la leçon est rapide, le temps nous presse, et ce survol est assez panoramique sans rentrer dans tous les détails. Mais quelle belle histoire que celle de la rançon que Christ a versée pour nous. Agorazo nous dit que Jésus est venu sur une terre transformée en marché aux esclaves, livrée aux passions, aux péchés, aux démons, à la maladie, à la mort. Et il s'est approché des hommes, de tous les hommes, sans distinction. Il a examiné notre condition. Il nous a trouvés misérables, humiliés, malades, oppressés, accablés. Et il ne s'est pas détourné de nous. La Bible nous dit qu'il a payé l'agorazo. Qu'avait-il pourtant en nous ? Nous n'avions aucune force, nous n'avions aucun intérêt pour être rachetés. Nous n'étions que des pauvres créatures. Et il a quand même versé l'agorazo. Le prix élevé, le prix le plus élevé pour tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, et pour toi aussi. Exagorazo nous dit aussi que Jésus n'est pas simplement venu inspecter notre condition et nous racheter, il est venu pour nous soustraire définitivement du pouvoir de Satan. Il est venu pour nous arracher à lui, pour nous arracher de l'agora, afin que nous proclamions que plus jamais nous y retournerons. Je ne suis plus à vendre. Et tu peux le dire aujourd'hui, je ne suis plus à vendre. Je ne suis plus à vendre au péché. Je ne suis plus à vendre aux passions. Ils n'ont rien, ils ne peuvent pas surenchérir parce que Christ a payé le prix le plus élevé. Permettez-moi de rajouter ce point. Christ n'a pas payé Satan. L'agorazo, le lutron, n'a pas été versé à Satan. Parce qu'on ne paye pas un voleur pour reprendre ce qui lui appartient. Satan est un receleur. L'humanité n'appartient pas à Satan, elle appartient à Dieu. Et si Jésus a versé son sang, il l'a versé devant Dieu le Père. À cause de nos offenses, à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion. Mais devant Satan, il n'a rien négocié. Il n'a rien payé. Mais il a dit, cela m'appartienne. Et il dit ce matin, toi tu m'appartiens. Toi tu as été créé par Dieu. Non pas pour une vie d'asservissement, mais pour une vie de liberté. Et Jésus dit, j'ai payé le lutron. J'ai payé le lutron. Jésus a donc payé la rançon de liberté. Son sang est le lutron qu'il a consenti à payer pour nous. Et alors, je veux dire, et vous pouvez dire, et nous devons l'affirmer, je suis libre. Je suis libre. Face au péché, à la tentation, face à Satan, face aux malédictions, dire je suis libre, je suis libre. Et maintenant, je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre pour Christ, pour mon libérateur. Et enfin, il a donc versé la polutrosis. Et ce mot nous rappelle que Jésus n'est pas simplement venu sur l'agora pour nous examiner, pour regarder notre condition, pour l'évaluer. Qu'il n'a pas simplement payé le prix de notre liberté. Qu'il ne nous a pas simplement retirés du marché une fois pour toutes, mais il est venu pour nous replacer dans notre condition et position première en Dieu notre Père. Et alors, nous pouvons dire, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Alléluia! Voilà la doctrine de la rédemption. Voilà la proclamation que nous annonçons à tout homme encore. Et peut-être certains au milieu de nous ce matin sont encore sur l'agora. Et votre vie, votre famille est comme livrée aux plus offrants. Qui encore cette semaine a réclamé un enfant ? Est-ce le péché ? Est-ce la violence, est-ce toutes sortes de choses qui encore aujourd'hui se sent comme liées par toutes sortes de passions, de malédictions. Tu n'as pas été créé pour être captif, mais pour être libre. Tu n'as pas la puissance pour te libérer par toi-même, mais Jésus est venu pour cela. La Bible nous dit que Christ nous a rachetés. C'est fait. Tu n'as rien à verser, tu n'as rien à prouver à Dieu. Tu n'as pas à prouver au Seigneur que tu aurais des capacités particulières. Autrefois, les esclaves faisaient peut-être cela. Ils voulaient montrer leurs muscles lorsqu'ils voyaient un acheteur intéressant. Ils voulaient montrer tout ce qu'ils étaient capables de faire. Tu n'as rien à montrer à Dieu. Tu n'as rien à lui prouver. Tu as simplement à accepter ce que Christ a fait pour toi. Et à dire, Seigneur, je veux te suivre. Pouvons-nous imaginer un esclave qui aurait refusé de suivre celui qui a payé son lutrone? C'est ce que Christ a fait pour toi. Mais je veux m'adresser aussi à vous, mes frères et sœurs. Combien véritablement au milieu de nous vivent l'hexagorazo, vivent la polutrosis? Combien d'entre nous ont véritablement réalisé tout ce que signifie la rédemption en Jésus? Combien s'arrêtent simplement à dire, oui Seigneur, tu m'as racheté, oh, mais vois, je suis encore comme sur l'agora, et je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, et vois encore Seigneur, le péché est là, il entoure ma maison, il entoure ma vie, la malédiction est là, il y a encore tant de choses qui m'accablent. Christ a prononcé l'hexagorazo sur ta vie, mais tu dois rentrer dans cette dimension. Christ a payé le lutrone, et tu dois rentrer dans cette rançon de liberté. Christ a payé la polutrosis, une rançon de réconciliation avec Dieu. Tu n'offenses plus Dieu, tu es en paix avec Dieu. Il n'y a plus de colère et de condamnation sur ta vie. Christ a payé la polutrosis du renouvellement, de la réhabilitation, de la restauration. Tu n'es plus un esclave, ne vis pas comme un esclave. Tant de chrétiens vivent comme encore dans la peur de la mort, dans la peur de toutes sortes de choses. Alors vous savez ce qu'ils font? Ils s'imposent des règlements, des codes, toutes sortes de choses. Mais Paul nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il n'est pas venu pour nous imposer toutes sortes de règles, il est venu pour que nous soyons libres. Ce matin, non seulement nous voulons proclamer l'agorazo pour tout homme dans ce lieu, quelle que soit la situation, mais je veux proclamer l'hexagorazo. Dieu te sort ce matin. Toi, son enfant, il te sort du marché et il te dit, tu n'y retourneras plus. Tu as maintenant cette délivrance et il te donne sa rançon de liberté, son lutrone, un certificat qui dit, je suis libre. Et je proclame aussi la polutrosis de Dieu sur ta vie. Alors si dans ce que nous venons de partager, tu sens que le Seigneur te parle, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main. Quelle que soit la situation où tu en es, on va fermer nos yeux. Mais on veut laisser cet instant d'intimité, de paix avec le Seigneur. Plusieurs ont certainement besoin de laisser encore l'œuvre de Dieu agir en eux. Le Seigneur veut briser des liens ce matin. Il veut proclamer la liberté, la restauration, la réhabilitation. Alléluia, tu vois, Seigneur, ces vies. Tu connais leur situation personnelle. Seigneur, ce matin, nous proclamons que la rançon, toute la rançon de Christ a été payée, versée pour leur vie, mon Dieu. Ce ne sont plus des esclaves. Ce sont des enfants de Dieu. Seigneur, montre-leur l'étendue, la puissance, la merveille de ton œuvre de rédemption. Seigneur, je proclame la liberté. Je proclame ce matin le lieu de Christ. Tu desserres, tu dénoues, tu tranches les liens qui peuvent les retenir en arrière, Seigneur. Et tu leur donnes un certificat d'émancipation. Un certificat indestructible, indélébile, qui a été scellé dans le sang de l'agneau et marqué, frappé de l'autorité du Saint-Esprit. Et Satan ne peut plus rien contre eux. Nous sommes à toi, Seigneur. Et je prie pour qu'il y ait une œuvre puissante dans la vie de nos frères et sœurs et de nos amis qui sont là ce matin. Merci, merci, merci Jésus, parce que tu n'es pas venu pour être servi, mais pour servir l'humanité tout entière et donner ta vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Soyez libres. Vous n'êtes plus esclaves, vous êtes enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.